Donc, notre premier intervenant est Chimère Diao, que j'invite à nous rejoindre. Il revient même à l'instant de l'UNESCO, où il était là-bas pour une réunion préparatoire du sommet qui se prépare pour la semaine prochaine. Donc, Chimère Diao est économiste et anthropologue. Il est membre du conseil scientifique de la plateforme intergouvernementale Sciences politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES. Et il est également directeur général du réseau africain des forêts modèles. Ses publications et ses recherches incluent l'histoire et les migrations africaines, l'altérité des systèmes économiques, la propriété commune, la gouvernance de la biodiversité sur les territoires et les forêts modèles. Je lui laisse maintenant la parole. Merci.
Merci Clémence, merci aussi Apolline pour cette belle introduction et pour nous avoir aussi invité. Voilà, je ne sais pas comment brancher ça. Ça va se faire tout seul. Voilà, alors, en gros, on m'a proposé de vous parler de trois thèmes qui sont liés. Le premier, c'est l'IPBES, parce que c'est, voilà, c'est la qualité, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité des services écosystémiques qui se réunit actuellement au 17e plénière à Paris. Donc, c'est l'actualité. Et je vais également parler des forêts modèles, puisque, voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et également parler des conditions d'émergence d'une économie écologique, d'une nouvelle économie. Pourquoi je pose le problème de l'économie écologique et puis en quoi ça fait le lien entre la partie institutionnelle de cette discussion et également la partie pratique sur le terrain, dans les paysages et sur les territoires. Alors IPBES, alors je m'excuse aussi d'avance, il y a trop de slides dedans, il y en a 24, alors pour 15 minutes, vous vous rendez compte. Et puis des IPBES sont surchargés, donc j'ai un peu triché, j'en ai mis un paquet, donc vous m'excuserez. Alors en gros, voilà, IPBES, c'est plus intéressant après, parce que je vais y aller directement. C'est un long processus qui a commencé avec l'évaluation Millennium Ecosystem Assessment, j'ai oublié l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Voilà. Ça a duré longtemps, c'est passé par plusieurs phases. En 2006, ici, il y a Jacques Chirac qui avait organisé une grande conférence qui avait eu un processus qu'on avait appelé INOCEP, qui a précédé l'IPBES. Il y a eu le rapport TIP sur l'économie des écosystèmes, les services écosystémiques. Et en gros, il y a eu une progression, un mouvement progressivement à essayer de mettre en rapport et de mettre ensemble la question de l'interface entre les sciences et la politique à propos de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors, en 2012, ça a donné prétexte à la création de IPBES par les Nations Unies. Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, il y a quatre domaines, je vais très, très rapidement, hein, il y a quatre domaines d'intervention. Il y a un travail qu'on fait sur les évaluations, il y en a eu plusieurs, je vais en montrer quelques-unes tout à l'heure. Il y a un travail de soutien aux politiques, bon, ben, je ne suis pas très convaincu par ça, mais c'est des outils de soutien aux politiques. Je pense que ça marche mieux en Europe qu'en Afrique, puisque en Afrique, c'est d'autres éléments qui, à mon avis, influencent les politiques. Il y a un travail de renforcement des capacités et il y a de la communication. Ça, ce sont les quatre piliers officiels d'intervention de l'IPBES. IPBES, c'est un processus des Nations Unies, donc ça a tous les avantages et toutes les limites de ce type de démarche institutionnelle. Alors, il y a un centre de produits, il y a une bonne évolution, ça va vite. Il y a un rapport sur la pollinisation, je pense qu'il y a eu un gros impact, qui chiffre un peu ce que l'on a parlé tout à l'heure, Pauline. Ça a eu de l'impact, il y a un travail qui s'est fait sur les scénarios. Moi-même, j'ai participé à l'évaluation régionale de la biodiversité en Afrique. C'est un processus qui a pris 3 ans, de 2015 à 2018. Donc j'ai travaillé sur le chapitre 1 comme coordinateur principal. Et puis il y a eu plus récemment un travail sur la dégradation des terres et puis également ce qu'on appelle le Global Assessment qui va se décider, qu'on va adopter cette année. Alors il y a aussi un ensemble de répercussions, de retombées importantes. Et à mon avis, c'est l'aspect le plus intéressant, puisque la biodiversité, c'est des politiques, c'est multi-échelle, mais ça se règle fondamentalement au niveau local. Et il faut donc trouver un moyen de faire le pont entre la discussion des interfaces, les évaluations et les processus transformationnels qui se font dans les pays à différents niveaux. Alors là, par exemple, je vous donne l'exemple de BESNET, qui est un réseau qui a mis en place un certain nombre de processus. D'abord, plusieurs évaluations nationales au Vietnam, Colombie, Éthiopie, Cameroun. Voilà, à peu près, je crois qu'il y a peut-être oublié un pays, mais c'est à peu près ça. Il y en a, et ça se développe. Il y a des processus de trialogue où il y a plusieurs types d'intervenants entre les trois grandes composantes qui sont identifiées par IPBES, les politiques, les chercheurs, les gens de terrain et les scientifiques. Alors, il y a aussi, je vais mettre le truc sur l'ouvrage, là, enfin cette revue qui vient de sortir, que j'ai coordonné avec Agnès Alosseri, qui je pense qui est là tout de suite, qui est de prête pour ça, et qui discute un peu de ces questions pour un public francophone, pour sensibiliser, vulgariser. Alors, il y a donc beaucoup de choses qui se font en parallèle et qui peuvent influer sur un peu cette prise de conscience au niveau des politiques. Et moi, quand je parle des politiques à la fois comme sur le plan conventionnel, mais également des politiques. Parce que les politiques, pour moi, il y a des politiques locales, il y a des politiques à tous les niveaux. Une politique, pour moi, c'est des gens qui se réunissent et qui décident de comment les gens devraient se comporter par rapport à une question déterminée. À mon avis, c'est ça, une politique. Un des éléments qui ressort de tout ce travail, c'est que nous avons une interconnexion très, très forte entre différentes composantes. Différentes dimensions des problématiques qui nous intéressent. Bon, aussi bien la question des savoirs locaux, la question du genre, la question des habitats, bien sûr. Il y a le rapport entre la tenue, la paix, la sécurité, la fiction libre. En Afrique, en Afrique c'est très clair. Ça se voit. Et donc, il y a une interconnexion qui nous renvoie à la fois à la multiplicité des dynamiques qu'on doit prendre en charge en parlant de politique, mais également au fait que nous avons affaire à plusieurs types d'acteurs, c'est-à-dire à différents niveaux. Et lorsqu'on parle d'extinction de masse, je pense que c'est extrêmement important. Vous allez voir, moi, je vais poser mon sujet en posant la question africaine. Parce que lorsqu'on dit que les habitats disparaissent, chez moi, ça veut dire que ce sont les pauvres qu'on accuse de faire disparaître les habitats. Et l'ensemble du processus, du cadre d'analyse, de causalité qu'on a, surtout les causes directes, les causes indirectes, la manière dont on pose le problème, aboutit presque tout le temps à indexer les pauvres et à leur demander des solutions. Alors qu'à mon avis, il y a un problème beaucoup plus fondamental qui est producteur de ces inégalités, qui est producteur de cette destruction et qu'on a tendance à laisser de côté. Alors, je pense donc que c'est important de penser la question, la problématique de la biodiversité, de la nature à ces échelles et en les positionnant dans la géographie mondiale et même la géopolitique de notre planète. Alors, il y a ce lien à faire avec les forêts modèles. Ce qu'on essaie de faire au niveau local, parce que les forêts modèles, ce n'est pas des forêts mannequins, c'est des territoires qui sont gérés par les gens ensemble en essayant de mettre en place un processus sur lequel on peut s'inspirer pour se reproduire. Et donc c'est ça les forêts modèles. C'est la gouvernance des territoires par les gens, en mettant tout le monde ensemble, et il y a des méthodes qui ont été développées. C'est d'ailleurs dans toutes les approches territoriales, c'est une de celles qui a développé une méthode de convening pour mettre les gens ensemble pour qu'ils abordent leurs problèmes. Et donc ça, c'est vraiment important. Et nous, dans le cadre africain, ce qu'on a vu, c'est que d'abord, en termes de foresterie sociale, et la foresterie sociale, c'est même un misnomer, mais ce n'est pas vraiment la foresterie qui nous intéresse, c'est l'ensemble des usages du territoire. Et donc, il y a aussi l'élément que nous, on a posé au niveau du réseau africain de forêt modèle, qu'il ne s'agit pas simplement d'organiser les gens autour d'un territoire, il faut poser le problème de la nature de l'économie sociale et de l'économie qu'on construit sur les territoires. Et en posant cela, on peut maintenant penser différemment la question. Parce que, je vais rentrer dedans, vous n'en avez pas le temps. Alors, ces solutions, alors, forêt modèle, on a dit, c'est un partenariat. C'est le partenariat volontaire de tous les acteurs sur un territoire. C'est un territoire au sens de landscape, avec tous les usages, avec tous les acteurs. C'est également un engagement de tout le monde sur une vision commune du territoire sur 20 ans, sur 25 ans, sur 40 ans. Donc, où est-ce qu'on va? Comment on négocie le futur pour gérer le présent? Et donc, à partir de là, les gens développent une stratégie, un plan stratégique. Et ce plan stratégique est renouvelé périodiquement en des plans de travail. Les gens essaient de mettre en œuvre des programmes communs. Donc il y a une instrumentalité même de développement des programmes. C'est le quatrième principe des forêts modèles. Il y a un principe de mise en commun, de mutualisation, de networking, qui est également très fort dans les forêts modèles. Donc il y a six principes en gros qui gèrent cela, y compris un principe de gouvernance. Alors, nous, ce qu'on a fait, au niveau africain, c'est qu'on a essayé de développer la méthode, ce qu'on appelle l'exploration concertée et tous les acteurs qui ont une forme de... Il y a un peu le truc qu'on fait pour les peuples autochtones, c'est nous qu'on fait cela, après la même chose qu'on fait au plan multi-acteur, pour que les gens décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire du territoire, etc. Et on a ce qu'on appelle la convention territoriale. Très rapidement, il y a un ensemble d'outils hein, qui sont intéressants à voir, un business school pour les bureaux. Encore moi, j'ai participé à un travail qui se fait dans ce qu'on appelle le Landscape Academy, mais c'est pour des gens comme nous. Mais lorsqu'on travaille avec les gens sur le terrain, il faut les aider à développer leur capacité, leur capacité à transformer leur propre milieu. Et ce n'est pas les questions que des gens comme nous se posent. C'est deux types de questions. C'est des questions qui ont rapport directement à ce qu'ils vont faire avec le milieu, comment ils vont développer l'agriculture, comment ils vont mettre en place leur agriculture, comment ils vont industrialiser, comment les femmes vont prendre des produits cosmétiques et les mettre sur le marché, les nutraceutiques, etc. Donc c'est une autre façon de voir. Et pour ça, nous avons des millions de gens, des centaines de millions de gens dans le monde qui ne sont pas outillés pour le faire. Et tant qu'ils ne seront pas outillés, qu'ils n'auront pas les moyens de le faire, on va continuer la catastrophe dans laquelle on est actuellement. Alors là, il faut revoir l'économie, il faut reposer la question de qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce que ça veut dire pour différents types de personnes dans différentes parties du monde. Il faut reprendre des fondamentaux. Bon, moi, je prends le cas de Ramaphosa, celle-là, je l'adore, parce qu'il montre très clairement que comment l'entitlement theory, le rapport entre les avoirs que les gens ont, parce qu'on est au Congo, dans le sous-sol du Congo, il y a plus de 24 000 milliards de dollars de ressources, de réserves minières. Okay. C'est immense. Et vous parlez d'un des pays les plus pauvres du monde qui est massacré par la faim, par la famine, par la guerre, etc. Donc on ne peut pas comprendre la situation du Congo si on ne comprend pas la géopolitique, les conditions qui font que c'est comme ça et que les gens n'ont pas les moyens de transformer leurs avoirs en biens et services sur lesquels ils ont un contrôle légitime. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'ai discuté avec un prof, il me dit quand on était gosse, on jouait au football, nos camps là, les camps de football là qu'on fait, Nicolet là, c'est du coltan. Mais les gens ne savaient pas. Alors, c'est le coltan, c'est ça que tu utilisais pour vos téléphones portables, c'est ce que tu utilisais. Voilà. Tesla, c'est également le cobalt au Congo, tout le monde le sait, c'est là. Bon, qu'est-ce que les Congolais en font? C'est une question centrale. Si on ne l'a pas réglée, on peut pas parler longtemps de la déforestation, on ne va pas la régler. Alors, c'est la même chose. Il y a des questions de fond qui sont fondatrices. Les questions de citoyenneté, de communauté. Bon, ici en France, vous discutez beaucoup l'immigration, etc. Mais c'est quelque chose, ça me fait rire. Parce que jusqu'à présent, nous avons les fondements de la relation entre les citoyens et les communautés sur le droit du sol, le droit du sang, c'est encore des éléments qui sont partout dans le monde, et surtout en Afrique. Qui expliquent, qui sont des éléments explicatifs essentiels, des communs enchâssés, pourquoi ça marche comme ça, comment fonctionne la tenue foncière, pourquoi les gens n'arrivent pas à la privatiser. Ces éléments-là sont là et ils expliquent, ils sont présents jusqu'aux États-Unis. Cette lutte qu'il y a en différentes compositions, de est-ce que lorsque je suis sur le territoire, j'ai les mêmes droits que tout le monde, comment ça marche, ou est-ce que c'est plutôt des éléments de sang, de légitimité historique, de généalogie qui doivent intervenir dans la manière dont on me considère. C'est des questions des fondamentaux. Mais derrière, il faut qu'on voit qu'on fait face à une situation dans l'économie du monde où le système dans lequel on est a atteint ses frontières. Parce que le climat, c'est l'indicateur qu'on a atteint les frontières du système. On ne peut pas continuer à produire de la même manière. Il y a des slides que je n'ai pas ici, mais qui montrent très clairement que les pays, les émissions, de toute façon, c'est clair, c'est évident, les pays qui émettent le plus sont les pays les plus riches. C'est pas compliqué. Si on se dit que l'Afrique, en 2050, là, on aura une personne sur quatre dans le monde sera africaine. L'Afrique fait à peine, je ne sais même pas, on a 3% des émissions mondiales. Mais imaginez, on ne va pas rester pauvre tout le temps. Hors de question. On va s'enrichir comme tout le monde. Et quand on va s'enrichir, si on le fait sur les mêmes bases que tout le monde, cette planète, elle brûle. Donc le problème, ce n'est pas seulement la déforestation, les petits producteurs qui coupent. C'est que le contexte et la structure de l'économie mondiale est telle que pour que les gens vivent, il faut que ça se détruise. À moins qu'on déplace le problème. À moins qu'on le pose différemment. Qu'on change la manière dont ça se fait. C'est très difficile parce que c'est très difficile pour vous ici de changer votre façon de vivre, de changer votre façon de voir le monde, de changer de mettre la façon dont inconsciemment les gens mettent la priorité sur leurs propres choses avant de regarder les questions mondiales. Moi, je vis au Cameroun, c'est pas mon pays. Avant ça, j'étais au Canada, j'étais dans d'autres pays, j'ai décidé de venir. Mais je peux voir la différence dans la manière dont je perçois les problèmes. C'est pas la même chose. Et là, on aborde des questions qui ne sont pas simplement de l'ordre de la structure, etc. C'est la manière dont les gens vivent leur vie, comment les gens sont capables de sortir de leur vie pour construire des solidarités qui dépassent leur vie de tous les jours. Ça, je pense, ce n'est pas facile. On est dans une table ronde, donc on pourra peut-être en discuter. Non, là, je passe. Sur les forêts, je vous dis rapidement, oui, 2 minutes. C'est catastrophique. Juste pour dire, là, c'est un exemple, je vais dire 2 mots. C'est juste une série de slides qui montrent que l'Afrique fait à peu près 3% de la valeur ajoutée brute des forêts dans le monde. Okay. Pour à peu près 20% des forêts, 17% des forêts, puis 30% des autres espaces voisins. Ils gagnent vite, ils ont rien. L'Asie, le Vietnam qui achète son bois en Afrique centrale fait 7 milliards de profits en vendant des cuisines bien faites, etc. aux États-Unis. Les gens dans le bassin du Congo, ils ont un déficit de 1 milliard. On trouve ça partout, dans plein de domaines. Il y a plus de 707 milliards ou 770 milliards pour l'industrie des produits naturels de santé. L'Afrique fait 0,01% de ça, alors qu'il n'y a pas mieux. Moi, je vis là-dedans, il y a de quoi soigner tout le monde ici. Totalement sous-développé. Les gens ne voient même pas ça. Pourtant, c'est utilisé par les peuples. Alors, donc, en gros, il y a un peu cette série d'enjeux. Je vais rester là. Je pense qu'il ne faut pas trop. Il y a des avantages pour l'Afrique. C'est le seul pays qui n'est pas, qui n'a pas fait son industrialisation. Donc, il faut sauter les étapes. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Au contraire, on a l'obligation de faire différemment. Mais ça n'a jamais été fait. Et les technologies sont au nord, elles ne sont pas chez nous. Et donc, il y a, quand je parle de solidarité, c'est un truc très réel. Lorsqu'on parle des objectifs de développement durable, en général, on parle d'objectif 15, on parle de trucs. Oui, on voit la nature, mais ce n'est pas ça. Les éléments les plus fondamentaux, c'est 7, 8, 9. C'est l'énergie, la manière dont on va s'industrialiser, la manière dont on va faire des innovations. Bon, ça, on n'en parle pas lorsqu'on parle de biodiversité. Moi, je pense que la clé, c'est pas la biodiversité en soi, c'est la mise en place des mécanismes qui nous permettent de bouger le problème. Alors maintenant, est-ce qu'on peut arriver? Je suis absolument pas sûr. C'est pas évident. Merci.
Bravo.